Mon espoir s'est mis en érose, mon miroir en être morose, où je viens amer, lorgner mes pareils, vivre dans la boue en simple appareil. Loin du port, jugeant la vitrine, j'ai la porte toute ma doctrine, honnissant ceux qui jouissent en puriste, des eaux glaces du calcul égoïste. Je sais évidemment, les torts sont dissociables, les enfants, les mamans se disent irresponsables. Mais si l'on s'attendrit, si l'on se laisse faire, et qu'on commence un tri entre ces mammifères, bientôt rien ne va plus, on tourne à l'humaniste, et ce qui vous avait plu, soudainement vous attriste. Halte au doute corrupteur, je me fais Robespierre, ordonnant à mon cœur de s'égaler aux pierres. Mon objet, c'est la fin du monde, mon projet peut paraître immonde, mais c'est parce que j'ai aimé cette planète qu'aujourd'hui j'écris cette chansonnette. Mon amour a perdu courage, mon humour s'est changé en rage. Comme dit Marguerite Duras, en expert, ce monde est pourri, il aille à sa perte.
Bien le bonsoir, monsieur Edmond, bien le bonsoir, cher public. Ben, c'est le retour de l'émission Je m'ennuie bien, c'est la rentrée. Presque on aurait pu vous laisser seul dans ce monde affreux, mais non, on a décidé de revenir avec tous nos chroniqueurs, ou presque. On ne désespère pas de retrouver Madame Freddy cette année également, mais régulièrement, nous retrouverons monsieur Kogan et Madame Ginette. Bonsoir.
Oui, vous avez reconnu, c'était notre inestimable Madame Henriette, toujours aux commandes, à la technique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mon casque qui grince. C'est normal ? J'ai l'oreille ou c'est l'oreille interne qui grince ? Je ne sais pas.
Eh bien, vous avez pris une année de plus par rapport à la dernière rentrée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
J'ai pas
d'autre explication, monsieur Edmond.
Bon, allez, c'est pas grave. Cette année, j'ai décidé. Bon, je me suis un peu lassé, je dois dire, de la presse régionale, départementale, française, même s'ils font un travail formidable, évidemment. Et j'ai décidé d'aller voir la presse féminine, dite féminine, au moins pour commencer aujourd'hui.
Je sais pas si c'est une excellente entrée en matière, mais bon. On va perdre notre unique auditeur. Merci, monsieur Edmond, pour cette rentrée en fanfare.
Alors, pour tout vous dire, au début, je n'ai pas été trop, comment on dit, désorienté, puisque par exemple, je suis tombé sur la chronique. Alors évidemment, c'est Biba, Cosmopolitan, Elle,
ne me regardez pas comme ça, monsieur Edmond.
Mais si, je sais que vous êtes une spécialiste.
La dernière fois que j'ai lu la presse féminine, ça devait être OK Podium, alors bon.
Ça existe encore, OK Podium ?
Probablement pas.
Ah, mince. Et donc, il y avait une rubrique qui s'appelait « L'expert qui a changé ma vie ». Alors, je me suis dit, bon, ça peut être intéressant quand même. Et donc, c'est Juliette qui témoigne. Et là, j'ai vraiment cru que j'étais retombé dans la PQR. Un ancien champion de basket américain m'a aidé à rebondir.
Oh !
Là, je me suis...
Bon, les jeux de mots foireux, génial.
Et alors, un peu plus bas, la question monde... Mode, pardon, monde. Non,
ne rêvez pas, il n'y a pas de rubrique géopolitique.
On n'en est pas loin pourtant. La question mode, évidemment, sur laquelle je me suis précipité.
Oui, car c'est votre passion.
Peut-on mettre des tongs au bureau ? Oui, mais à condition de ne pas les porter avec un pareo. C'est bon quand même, non ? Non, ça vous fait pas rire, Madame Henriette.
Oui, bon, écoutez, c'est peut-être un peu dommage de tuer des arbres pour ça, mais bon.
Alors, ce titre, digne de la PQR, la frange... sur tous les fronts.
Oh, génial. Non, mais c'est... Vous pensez faire ça toute l'année ?
Non,
ou...
mais je ne sais pas. Mais pour l'instant... Mais il y a des choses qui m'intéressent. Écoutez.
Non, parce que là, on retrouve des constantes quand même.
Oui. Mais alors après, je suis allé voir l'article du coup. Et alors là, je dois avouer que j'étais complètement largué. Alors, je ne sais pas si c'est que je manque de vocabulaire ou de cheveux. Mais en tout cas, c'était compliqué pour moi. Oubliez la version rideau, qui n'a d'ailleurs de frange que le nom. Je ne comprends pas de quoi ça parle, mais bon. Ultra longue ou coupée net en milieu de front, voire archi mini, la vraie frange est partout et s'assume en tant que statement.
Alors, statement. Je pense que c'est... Oui, voilà, c'est probablement ça.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Je ne sais pas. Pourquoi vous me demandez ? C'est pas moi qui ai écrit ce truc ? Non, mais j'ai un vrai métier, moi, monsieur Edmond. Un métier honnête, utile à la collectivité.
On n'est plus dans l'entre-deux, confirme la célèbre coiffeuse Delphine Courteil. La frange booste la force d'un look et donne une allure plus fraîche. Si vous n'avez pas de frange, vous n'êtes pas frais. Et leur bonus, attention, les franges longues, façon écolière à la Sophie Marceau, cachent bien la ride du lion. Alors, j'imagine que c'est une ride qu'on a sur le front.
Oui, je suppose, parce que si c'est sur le menton, évidemment, ça marche beaucoup moins.
Bah, on parle d'une frange un peu longue quand même.
Sinon, là, c'est le cousin machin, c'est un peu différent.
Bon, voilà, alors là, bon, comment dire. Alors du coup, je suis allé voir comment me lever en forme. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses dont j'ignorais tout, et notamment la napsothérapie. Non, mais ne clignez pas des yeux, Madame Henriette. Je vais croire que vous me faites des propositions.
J'en fais rarement, c'est quand je ne comprends pas la phrase, en fait.
Alors, la napsothérapie, c'est un truc, je veux dire, heureusement qu'on est au 21e siècle et je ne sais pas comment on a fait pour vivre sans.
Bon, on a tous compris thérapie, déjà, c'est pas mal.
Oui. Et alors, en fait, c'est une thérapie qui allie nutrition, activité physique, sommeil.
Ah oui, c'est-à-dire vivre à peu près sainement.
Voilà, parce que si il vous manque l'un des trois, c'est là où ça commence à mal aller. Ou s'il y en a un des trois qui est déséquilibré, vous voyez.
Merci la science.
Mais du coup, ça s'appelle la napsothérapie, et donc c'est un bouquin que vous pouvez acheter pour 25 euros. Qui vous dit, bah, vivez,
bien manger,
dormez bien, mangez bien.
Faites de l'exercice.
Voilà, et ça va aller mieux.
Non, mais ça, franchement.
Non, mais heureusement qu'il y a des gens qui écrivent des bouquins utiles.
Oui, non, puis ça vaut le coup d'investir de l'argent dans des projets de recherche, tout ça. Non, parce que là, c'est bien, c'est bien.
Alors, par contre, il y a peut-être une rubrique, je dois avouer, Madame Henriette, je suis déjà accro. Ça s'appelle la routine beauté 2. Et évidemment, à chaque fois, il y a une invitée différente. Célèbre, je ne sais pas, parce que là, je suis tombé sur Anaïs Jasmine. Et je dois avouer que j'ignore tout de cette personne.
Et vous n'avez pas fait une petite recherche, monsieur Edmond ?
Alors, non, non. Mais par contre, je sais qu'elle a eu du succès avec sa méthode ventre plat, le belly sculpting.
D'accord.
Et donc, elle lance...
Les gens s'emmerdent, non ?
Ouais. Et aujourd'hui, on nous annonce qu'elle lance sa version pour smartphone. Je dois avouer que j'ai pas bien compris.
Et alors, c'est le smartphone qui se sculpte le ventre ?
Bah, je sais pas, ouais, j'ai pas bien saisi comment ça fonctionne.
Je pense que voilà, le train est parti sans nous. Hein.
Alors, la routine beauté de Jasmine, la morning routine évidemment, parce qu'on commence par là. Je bois au réveil un verre d'eau ou de vinaigre de cidre bio. Au réveil, ça doit piquer un peu quand même.
Ah oui, oui.
Par contre, puis qu'elle prend du vinaigre bio le matin, le cidre.
C'est quand même, c'est déjà bon. La bière au réveil, ça c'est stigmatisant un peu. Mais alors, quand on en est pour se trouver un alibi à boire du vinaigre
bio, hein, quand même, de cidre.
Oui, oui, mais enfin bon, là, je trouve ça un peu louche.
Ah non, mais ça doit être quelque chose quand même. Une fois que quand le réveil sonne, là... oui, mon verre de vinaigre.
Après,
ah, on doit être réveillé après, ça, c'est sûr.
Elle commence pas à l'alcool de lampe, c'est déjà ça.
Bon, après, c'est peut-être une personne aussi qui peut se réveiller à des heures tardives. Et bon.
Mais vous essaierez de boire un verre de vinaigre bio, même à 10 heures du matin.
Après la douche, alors là, vous allez voir quand même que moi, après la douche, bon, en général, je fais rien, mais bon, je suis pas une femme, hein, visiblement. Je vaporise sur mon visage la brume florale du lait. Juste avant d'appliquer une huile au rosier sauvage super régénérante, j'alterne avec le sérum hydratant et apaisant le skin chutical.
On est déjà à 25 euros la douche, bon.
Et surtout en ce moment, je termine. Parce que bon, elle s'est déjà mis trois couches de trucs, mais bon, il faut terminer quand même. Elle se termine avec SPF, qui sent super bon. Je ne sais pas ce que c'est SPF, mais bon, voilà, c'est super. Et ça ne laisse pas la peau grasse, nous dit-on. Alors avec trois couches, c'est peut-être la dernière, ils mettent un truc qui donne un effet de peau non grasse.
Non, en fait, ça fait un film plastique sur le reste, c'est pour ça.
Alors, heureusement, on en apprend un peu plus sur le belly sculpting, dont l'application est en train de sortir. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir vous belly sculpter le bide avec une appli. C'est une fusion entre le pilate et le stomach vacuum. Ça fait un peu aspirateur leur truc, mais bon. Il paraît que c'est une technique de respiration ancestrale.
Alors... stomach vacuum, moi je suis désolée, mais si on analyse un petit peu, Est-ce qu'il ne s'agirait pas tout simplement d'éructer?
Bah, remarquez, en même temps, les bébés, hein, au début, qu'est-ce qu'on fait?
Ils font du stomach vacuum.
Eh oui! Et des fois, même, c'est assez puissant. Hein.
Bon.
Vous en prenez plein le dos. Hein.
Bon, bah, écoutez, monsieur Edmond, je découvre avec ravissement le monde moderne qui ne cesse de s'améliorer. On prend des vacances, on revient 2 mois plus tard. Et c'est encore plus merveilleux qu'avant qu'on soit parti.
Et alors, cerise sur le belly.
Oui.
2 fois par semaine, cette dame, après tout ce qu'elle se met sur la tête, après son vinaigre de cidre bio et son pilate et son vacuum stomac, elle file à la maison Sanbao pour un drainage lymphatique profond. Et les résultats sont incroyables sur ses problèmes de rétention d'eau. Je ne sais même pas ce que c'est un drainage lymphatique profond. Bon, 2 fois par semaine, c'est peut-être pour faire ressortir le vinaigre. Je ne sais pas.
Et alors là, par contre, ce qui est pratique, c'est si ça fait ressortir le vinaigre et en même temps un peu de cellulite, ça vous fait la vinaigrette. Et ça, c'est pratique.
C'est vrai que c'est pas mal. Allez, un autre truc. Mais alors là, vraiment, je vais vous le dire tel quel, mais moi, je n'en ai pas compris un mot. Si ce n'est qu'à mon avis, c'était pour faire peur. Ça doit faire partie. J'ai cru un moment que c'était le scénario d'un film d'horreur. Botty ordonnance. Déjà, le surtitre, vous voyez. Bon. Non au bouton. Bon, jusque-là, ça va. Écoutez bien. Acné rebond. Poussée inopinée ou encore kératose pilaire. Pas question de les laisser gâcher notre entrée. L'aspect peau de poulet. Pourquoi ? Le vrai gros spot est plus rare sur le corps, 3 fois moins de glandes sébacées, mais le phénomène d'hyperkératinisation y entraîne des rugosités comme des petits boutons bosselés sous peau. Heureusement, il y a une solution contre ça.
Une crème à 300 euros les 50 millilitres.
Il faut privilégier les formules à base d'urée, d'AHA ou de BHA, dont l'action exfoliante permet au sébum de sortir du follicule pileux sans problème. Alors, moi, je ne savais pas que j'avais tout ça sur la peau, mais bon, visiblement, en fait, ce n'est pas des bouquins féminins, c'est des trucs hyper techniques.
Manifestement.
Je veux dire, ce n'est pas à la portée de n'importe qui de rentrer dans
ce genre de littérature. De rentrer dans le follicule pileux, oui, ça c'est sûr, oui, évidemment.
Exactement.
Restez devant le micro quand même.
Non, j'y reviens. Allez, on va lire un dernier petit truc et puis après, peut-être, on essaiera de joindre l'un de nos chroniqueurs.
Oui, qui, eux, ont peut-être des choses sérieuses à nous dire.
Alors, évidemment, vous savez comment c'est ce style de magazine. Il y a toujours des questions. Donc là, la question, c'est la question posée à la psychologue du magazine, je ne sais plus lequel. Léo a la phobie des chats. Donc Léo, c'est l'enfant d'une dame ou d'un couple et des chiens. J'annule la graisse ? Il paraît qu'il y a plein de chats en Grèce. Donc, je fais quoi ? Voilà le titre de la rubrique, je fais quoi ?
Mais parce que cet enfant, d'habitude, il vit où ?
Bah, chez eux, mais là, je ne sais pas. Il n'y a
pas de chats dans leur pays ?
Mais ils évitent d'en croiser.
C'est amusant, d'ailleurs, de s'appeler Léo et d'avoir peur des chats, je dis ça, bon.
Pour ceux qui ont fait du latin. Alors, Clémence Prompsy. Ce n'est pas une blague, hein. Elle s'appelle Prompsy, elle est psychologue.
Oh, oh, oh.
Alors, elle nous dit, la piste la plus évidente pour Léo, c'est un événement traumatique. Il s'est un jour fait mordre par un chien ou par un chat. Mais, à moins qu'il ne s'agisse d'un déplacement, c'est-à-dire d'un autre stress à l'origine de cette phobie. C'est-à-dire que si la psy s'est trompée, heureusement, elle a une autre théorie qui permet de dire qu'elle ne s'est pas trompée, puisqu'en fait, c'était un déplacement. Voilà.
En fait, il fait ses vêtements par son petit frère.
Alors, il faut savoir que la psychologue nous dit que les enfants de moins de 4 ans, bon, il faut éviter d'en faire des tonnes. Parce qu'en fait,
ah oui,
sinon...
non, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants de moins de 4 ans. Non, mais ça, c'est certain. Si vous étiez parti là-dedans, arrêtez-vous tout de suite.
Parce que si vous n'arrêtez pas de parler de sa phobie, ça risque de le bloquer sur ce problème, vous voyez. Et il faut le savoir, les petits de cet âge-là ont souvent peur des gros animaux, nous dit la psychologue, les chiens, les chats. Mais aussi les éléphants, les girafes.
Oui, alors ça, c'est moins embêtant dans les rues de Paris, évidemment.
Et ensuite, parce que vous allez voir, les marmots, quand même, ils sont un peu pénibles, hein, parce que jusqu'à 4 ans, donc ils ont peur des gros animaux. Et elle nous dit qu'à...
Est-ce qu'on a besoin d'un psy pour savoir ça?
De 4 à 8 ans, c'est l'inverse. Ils sont effrayés par les petits animaux, comme les insectes.
Alors,
autant dire qu'ils sont pénibles jusqu'à 8 ans.
Ça peut durer plus longtemps.
Hein? Ah, mais peut-être que vous avez eu un déplacement, Madame Ariette.
Moi qui n'ai pas eu un fol amour pour certaines petites bêtes à 8 pattes, ça fait longtemps que j'ai quitté les rives de l'enfance.
En même temps, j'ai envie de dire, Pascal avait tout compris, l'auteur, le philosophe clermontois, puisqu'il avait dit...
Inventeur de la machine à calculer.
Les deux infinis, hein, c'est cette peur qu'il avait des deux infinis, donc c'est ça, quoi, de 0 à 4 ans.
L'infiniment petit, l'infiniment grand.
Ouais.
Alors, on n'est pas dans l'infini, hein, quand même, on est dans petit ou grand, relativement à notre taille humaine.
C'était un reste de son enfance, où il avait eu peur des gros animaux jusqu'à 4 ans, et de 4 à 8, des petits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, évidemment, il faut parler à son gosse.
Vous vous rendez compte que là, on vient de perdre les derniers profs de philo qui nous écoutaient. Ils ont rageusement cassé leur poste de radio.
Ça existe encore, les profs de philo?
Je croyais les postes de radio.
À mon avis, c'est l'année dernière qu'on a perdu les derniers profs de philo, quand ils ont vu ce qu'on avait fait du bac philo. C'est-à-dire que les mecs arrivaient, ils n'en avaient rien à cirer, même pas de stylo, ils s'en tapaient complètement. Mais alors peut-être cette année, vu qu'on a changé de ministre de l'éducation,
alors,
peut-être
en fait,
tout va aller mieux.
Ce « on » désignait l'émission, monsieur Edmond. Mais continuez.
Bon. Lorsque ça devient compliqué à gérer, il faut s'en occuper du problème. Que faire? Eh bien, il faut parler à son enfant. Écoutez bien, on en parle avec lui en s'adaptant à son caractère. Eh oui, ne pas le traumatiser, sinon vous allez faire un traumatisme sur le traumatisme. Et si tout ça ne marche pas, heureusement, il y a une solution, c'est comme les crèmes pour les boutons. Eh bien, dans ce cas, le MDR est une technique qui marche bien.
Mort de rire?
Je sais pas. C'est pas précisé, on sait pas. Le MDR, grand E, grand M, grand D, grand R. Voilà. Allez, un peu plus tard dans cette émission, si tout va bien, on ira sur une rubrique beaucoup plus intéressante que j'ai lue avec beaucoup d'attention. Peut-on congeler les courgettes?
Ouh, mais là, on rentre dans le dur, c'est le cas de dire.
Eh bien, on va tout de suite essayer de joindre un de nos chroniqueurs. Est-ce que Monsieur Kogan est dans la place?
Oui, Monsieur Kogan est dans la place et j'ai le plaisir de vous confirmer que Madame Ginette est également dans la place. Ils sont tous dans la place.
C'est vrai? C'est magnifique, ça. Bonjour, messieurs, dames. Mesdames, messieurs, madame.
Tout baigne.
Oh. Tout baigne dans l'huile et dans le cidre de...
Non, mais vous...
Dans le vinaigre de cidre.
Laissez tomber, vous ne lisiez pas OK Podium au bon moment.
Alors, tout baigne avec ce qui se passe actuellement en Libye. C'est peut-être un peu osé comme jeu de mots, si je puis me permettre.
Oh, bravo!
C'est vrai qu'ils ont fait très fort. On avait commencé avec le tremblement de terre, mais eux, ils ont mis tout le monde d'accord. Hein.
Vous savez, on parle de catastrophe, alors j'ai tellement peur d'en produire une, rien que par ma présence dans une émission. Vous voyez, j'ai dégonflé en termes d'ego pendant ces vacances.
Pourquoi il nous parle de l'ego? Il a passé l'âge quand même, Monsieur Kogan.
On passe l'âge de plein de choses. On passe sans doute l'âge d'aller au cinéma. Et pourtant, cette année, je vais encore vous parler de cinéma. Voilà. Chers amis, chers compatriotes, c'est la rentrée. En effet, c'est la reprise. Et heureusement que je suis un fan de rugby, parce que l'actualité, c'est pas trop foufou en ce moment. On en parlait tout à l'heure. Je ne sais même pas si c'était enregistré, mais on a parlé en effet de la Libye et du Maroc. Alors, c'est magnifique. Sans oublier les extraordinaires perspectives de collaboration militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Voilà. Ou encore Michel Onfray qui donne son avis sur la Baïa. Je ne sais pas quelle info doit le plus nous inquiéter. Bon, alors j'espère que Madame Henriette est contente, puisque le groupe Blackpink, groupe de K-pop 100% féminin, a reçu les prix de meilleur groupe de l'année et de meilleure chorégraphie au MTV Music Awards. Vous voyez, je me tiens au courant de l'actualité, même de trucs que je ne comprends pas du tout.
Alors moi non plus, Monsieur Kogan, moi non plus.
Ah bon, d'accord. Alors, tout comme les 9 prix pour Taylor Swift, je pense que je n'ai jamais entendu un seul morceau de cet artiste. Bref, tout va donc très bien. Ou devrais-je dire comme GG, tout va bien se passer. Oulala. Bon, GG, on en reparlera. C'est bien sûr un de nos héros récurrents. C'est bien connu. Alors, côté grand écran, voilà, c'était difficile cet été pour tous les autres films, puisque il y avait Barbie et Oppenheimer qui restaient tous les journaux, tous les écrans. Je n'ai pas vu le premier. Et j'ai été déçu par le deuxième. Je crois d'ailleurs que certains membres de l'équipe ont été déçus par le premier aussi. Là.
Également. Mais moi, j'ai vu un très bon film cet été, mais peu de monde en a parlé.
Vous m'en parlerez, n'hésitez pas. Donc, parlons d'autre chose. Alors, en l'occurrence, la franchise Equalizer avec Denzel, elle s'est arrêtée aussi cet été. La vérité, c'est que je ne m'attendais à rien vraiment... extraordinaire avec ce dernier film d'Antoine Fuqua. Le personnage en convalescence dans un village sicilien qui affronte la mafia, bon, le gars, il est fatigué. OK, nous aussi, et l'acteur aussi, semble-t-il. Un film d'action où la moitié des scènes, c'est pas des scènes d'action, c'est de la violence suggérée. Donc, c'est assez rigolo. Attention, les gars, hein, le perso, il est dangereux, hein. Bon, ça, on le savait déjà. Hein. Ou alors, ça veut dire que tu n'as jamais vu Equalizer ou que tu n'as jamais vu Denzel Washington. Donc, voilà. On n'y croit plus trop. Et puis, il était vraiment temps que ça s'arrête. Voilà, merci. Merci, Denzel.
Votre conclusion, c'est rentre chez toi, Fuqua, t'as trop bu, quoi.
Alors, il ne faut pas trop associer l'excès de boisson ou de nourriture avec le mot Fuqua. Ça, tout de suite, on pense à autre chose, Madame Henriette. Voilà. Donc, du coup, je me suis rabattu sur un film japonais. Et oui, un film japonais.
Non, mais vous faites ce que vous voulez, Monsieur Kogan, c'est votre vie.
Comment ?
Non, rien, je disais que c'est votre vie. Hein. Vous avez le droit de... Vous êtes un peu maso, vous regardez des films japonais, chacun ses choix.
Ah oui, mais alors là, il s'agit d'un film japonais donc, qui s'appelle Keiko Mewo Sumasata, ce qui veut dire la beauté... ce qui est traduit en français, à mon avis, pas du tout justement, par la beauté du geste, c'est l'histoire, crois plus ou moins vraie, d'une jeune boxeuse sourde, en doute. Donc c'est une vraie tranche de vie simple, avec un parti pris très épuré, un grain un petit peu gros, assez spécial, un vrai ton. Bref, j'ai trouvé ça très très bien, lent, mais original. Japonais quoi. Et pour le coup, Shomiyake, c'est pas vraiment un inconnu. Hein. Il devait d'ailleurs adapter la série de films The Grudge en série pour Netflix, mais le Covid a semble-t-il un petit peu bousculé ses projets. Le Covid, il en est d'ailleurs question dans ce film sur la boxe, mais le film est donc sans doute plus intéressant que la série horrifique. Difficile de ne pas parler aussi d'Anatomie d'une chute. Oui, je suis bien en train de parler d'un film français. Ça n'arrivera pas tous les jours cette année non plus. Là, pour ceux qui auraient vraiment raté les infos, puisqu'on en a quand même beaucoup parlé de ce film, ce drame judiciaire avec ce petit garçon aveugle ou presque, un petit peu ambigu, seul témoin de la mort suspecte de son père. Le film a été primé à Cannes et il faut évacuer tout de suite les polémiques pour se concentrer sur le film. Se concentrer parce que ce film demande un vrai effort, il faut le dire. D'abord, le film fait 2h30 et puis on oscille entre des thématiques et des situations qui sont compliquées. Alors, l'enquête reconstitution, des scènes de prétoire, beaucoup de tensions psychologiques, un espèce de huis clos dans un chalet en travaux. Donc, qu'on le veuille ou non, on est happé par l'histoire. On est extrêmement troublé par cette actrice glaçante. Et on est bouleversé plus par la violence des mots que par la violence des images, hein, même s'il y en a deux ou trois. J'ai retenu Antoine Reinhardt, qui en procureur est absolument abject et donc génial, évidemment. Sandra Hüller, dont je parlais, est formidable, et le petit Milo Machado, je pense qu'on va en entendre parler. Justine Trier a donc réalisé un grand film. Mais autant le dire tout de suite, c'est pas pour tout le monde, parce qu'on n'en sort pas indemne de ce film. Voilà. Côté série, je vous conseille Opération Spéciale Lioness. Bon, bah, le taulier des showrunners Taylor Sheridan, avec cette histoire d'un groupe à la tête d'un groupe de forces spéciales américaines très féminin, a réussi encore à surprendre. Alors, pourtant, sur le papier, c'était difficile, mais on a Zoe Saldana qui est tout à fait au top. Et avec une distribution royale, hein, puisqu'il y a Nicole Kidman, Jill Wagner, Morgan Freeman, et qui sert un peu de faire-valoir quand même, parce qu'il y a peu d'hommes dans cette série. C'est très féminin, c'est très puissant, c'est violent, mais c'est distrayant, c'est vrai. Quelques dates peut-être pour finir, avant quand même de donner une ou deux infos au cinéma. Alors, on attend bien sûr la sortie. Donc là, on attend bien sûr enfin, j'ai pas encore vu, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je n'ai pas encore vu le dernier Hercule Poirot. Et évidemment, c'est sans doute le film que j'attends le plus, même si à la vue de la bande-annonce, je suis un petit peu troublé. Je pense qu'il y a beaucoup d'effets dans cette bande-annonce et j'ai peur que ce soit un peu comme l'avant-dernier, qui a un petit peu tout dans la bande-annonce. Oui. Alors on verra, on verra. On verra, j'aime beaucoup ce personnage. Donc, j'ai hâte quand même. Quelques dates quand même, même si je n'ai pas fait un énorme agenda. Ce que j'ai voulu mettre en exergue là, aujourd'hui, c'est le premier festival Attaque fait son cinéma en Limousin. Alors, voilà, je donne un petit peu le ton. Voilà, donc du 14 au 22 septembre. Donc c'est à Saint-Just, à Saint-Léo, à Guéret le 19, à Émoutiers, à Saint-Thierry, à Bellac. Donc c'est trois films qui tournent donc sur ces villes-là. Ces trois films, c'est L'Illusion verte, un film sur le greenwashing, De l'eau jaillit le feu, un film sur la problématique de l'eau, évidemment, et les méga-bassines. La cigale, le corbeau et les poulets. Alors ça, c'est un film sur la résistance d'un village éreinté sur évidemment le complexe politique et industriel. Enfin bref, vous verrez. Donc voilà, je conseille vraiment puisqu'il y aura des débats, des interventions avec des spécialistes, avec des universitaires qui seront organisés pendant après ces projections. Voilà, que dire d'autre? Eh bien, évidemment, les journées du patrimoine se feront et se font cette année le 15 et 16 septembre. Le festival L'Esprit des Pierres à Limoges, qui est un festival qui est très original, puisqu'il y a des horaires décalés, mais ça permet à plein de monde d'aller découvrir de la musique médiévale et de la musique classique, donc c'est assez original. Les journées portes ouvertes, les 15 et 16 à Nauriac, en même temps. Une conférence sur le peintre Anders Osterlind, mercredi 20 à 19h à la salle Simone Veil. Une rencontre avec Quentin Guillon pour son livre De la terre à l'assiette à 19h à Page et Plume le 22 septembre. Mais il ne faut pas oublier que les rencontres de Chaminadour continuent à Guéret jusqu'au 23 septembre. Parce que cette année, voilà, vous l'avez compris, je donnerai peut-être moins de dates, mais j'essaierai d'être un petit peu plus régional. Ça me plaît, puisque quand je parle de la région, je ne parle que du Limousin, la Nouvelle-Aquitaine, Chabepac-Acquey. Voilà, c'était ma petite chronique. J'espère que vous accepterez de me renouveler encore mon contrat cette année.
Faut voir, faut calculer.
Alors, Chaminadour, d'ailleurs, qui cette année s'ouvre avec une grosse conférence sur Dante. Donc, costaud quand même.
Absolument,
Costaud le programme.
absolument. J'ai vu ça et donc ben, c'est très bien, c'est très bien. Donc tout ça pour dire qu'il y a encore et toujours de la culture en Limousin et y compris en Creuse, voilà, qui est souvent apparu comme le parent pauvre en Limousin et c'est un tort, c'est un tort. Voilà.
Dites-moi, monsieur Kogan,
Bon
monsieur
bah.
Kogan, dites-moi, vous avez préféré le film japonais ou Rocky?
Alors, c'est quand même un petit peu différent, si je puis me permettre. Mais dans les films de boxe, C'est un film qui fera date, d'abord parce que c'est un film sur une boxeuse. Alors, il y a certes l'immense film de Eastwood, le titre m'échappe, pardon. Il y a un immense film de Eastwood sur une boxeuse.
C'était le prix, non,
sur une histoire qui est plus simple, qui est assez émouvante et puis qui a une fin ouverte. Et le film est beaucoup plus réaliste, bien sûr. Mais après, Rocky reste une référence, une référence intouchable.
Un film qui vous a frappé, oui.
Mais monsieur Edmond, mais sortez-le. Déjà, carton rouge dès la première émission, c'est incroyable.
En plein début de la Coupe du monde de rugby, commencer à me parler de frapper. Attendez qu'on se retrouve, vous allez voir.
Bon, en tout cas, Monsieur Kogan, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine devant les écrans, alors.
Voilà, et on vient de me rappeler que le film de Eastwood, c'était bien sûr Million Dollar Baby, film inoubliable. Et puis, la semaine prochaine, je vous parle du catastrophique dernier film de Gado. J'ai lâché le morceau, mais c'était assez évident.
Oui, bon, voilà, le suspense était quand même... un peu éventé en ce qui concerne votre avis sur ce genre de film.
C'est aussi bon que Mission Impossible. Hein.
Lequel ?
Tous. Hein. surtout celui où il se pose en hélicoptère sur un train qui roule à l'électrique et donc où il y a normalement des caténaires. Mais bon, pour le film, ils se sont aperçus qu'il a fallu les enlever. Ça pique,
hein, on n'est pas douillé.
Mission Impossible, c'est une série avec Martin Landau, c'est tout. Voilà.
Quel drôle de nom. Bon, et bien écoutez, donc on
a... Shots.
Oui, comme vous voulez.
Et on a bouleversé un peu l'ordre habituel de nos rubriques, mais c'est pas très grave, après tout, on fait ce qu'on veut.
Bon, exactement, on est chez nous.
Oh, ça c'est... Je sais pas, monsieur Edmond, je sais pas si...
Vous voulez dire que madame Ginette n'est pas loin ?
Alors, madame Ginette est dans l'écran, mais sinon elle est loin, en vrai. Dans la vraie vie, elle est loin.
Tant qu'elle n'est pas à cran, ça me va.
Oui, ça n'a pas l'air. Mais par contre, elle a l'air déjà fatiguée par vos calembours, qui sont l'épée de l'esprit, comme disait un grand auteur.
Ah, c'est peut-être ça, le vacuum stomach. Oui, c'est du calembour pour avoir le ventre plat. Madame Ginette, bonsoir. Bonjour.
Bonsoir, ou bonjour, ou comme vous voulez, c'est toujours bonsoir quelque part.
Oui, c'est vrai, voilà, vous avez raison.
Et voilà, non, mais moi je suis un peu partout, tout le temps, vous savez, je voyage. Je baguenaude.
Oh, et quelle est votre morning routine ?
Ma morning routine, c'est déjà de me lever et c'est pas toujours facile.
Et c'est pas si mal.
Je suis d'un âge. Voilà. Non, je voulais revenir vite fait sur... Monsieur Kogan parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde de rugby. Et donc, la plupart des All Blacks sont logés à Lyon en ce moment. Et deux d'entre eux, alors pour ceux et celles qui connaissent un peu en rugby, il s'agit de George Power et Andy Ellis, ils ont voulu faire les Lyonnais, c'est-à-dire qu'ils ont loué des Vélov, c'est les Vélib Lyonnais, et ils ont pris la colline de Fourvière pour aller à l'église, enfin la cathédrale de Fourvière au-dessus. Et évidemment, tout le monde a vu ça, donc tout le monde s'est mis sur le passage façon Tour de France, ouais, tout ça, des fans, bravo, tout ça. Sauf que je ne connais pas assez la topologie de la Nouvelle-Zélande, mais enfin, Lyon, ça grimpe quand même un peu.
Alors, la Nouvelle-Zélande, on peut dire qu'il y a des endroits où ça grimpe aussi. Ils y ont tourné un film aussi peu intéressant, au niveau du scénario, qu'intéressant au niveau des paysages, que Vertical Limit, quand même.
Ah hein, oui, c'est vrai, c'est
quand
pas
même,
faux ce que
vous
dites là.
Un chouïa, un film de montagne, puisque c'est censé se passer dans l'Himalaya.
Mais qu'est-ce que vous
Donc,
êtes allé voir
vu le nom, on s'y attendait un petit peu. Mais n'empêche que George et Andy, tous All Blacks qui sont, et ben, il a fallu qu'ils fassent une halte dans leur montée.
Oh, quelle est mesquine.
Non, mais le vélo était peut-être pas adapté. Ils avaient des vélos trop petits.
Non, je pense que le vélo,
alors,
il était mort.
Alors, en toute franchise, Fourvière à vélo, je le fais pas, hein, clairement. Je suis trop vieille pour ces conneries. Cela étant, ce qui est très amusant, je trouve, c'est que finalement, la presse locale de la région lyonnaise a plus parlé du fait qu'ils en aient bavé plutôt que du fait qu'ils l'aient fait. Et croyez-moi, ce n'est pas rien, Fourvière.
Ah non, mais on vous croit sur parole, Madame Ginette, même si je ne vois pas quel est l'intérêt de monter voir cette mocheté d'église, mais bon.
Ah,
chacun son truc.
Comment je suis pas d'accord. Donc... Mais je ne suis pas d'accord. Et pour la descente, alors malheureusement, c'était toujours à Lyon. Ça aurait été beaucoup plus facile de redescendre de Fourvière s'ils avaient été à San Loraco de Bairro. Je m'excuse, je ne parle pas un mot de portugais, qui est un petit patelin au centre du Portugal. Apparemment très en pente aussi, mais de toute façon, hein, les pentes, hein, les montées, les descentes, c'est un peu notre lot commun à tous et toutes. Parce qu'en fait, il y a une distillerie au sommet de ce village, dont deux cuves d'1,1 million de litres chacune de vin rouge ont cédé.
Ouais, il y a de très belles images qui circulent sur Internet où on voit ce torrent de vin rouge descendre le village. C'est très bucolique.
Oui, alors j'imagine que quand on est à côté, au niveau de l'odeur, ça ne doit pas du tout être la même.
Oui, non, là, je pense que ça doit ravir. D'abord, c'est pas la bonne semaine pour avoir une crise de foie, parce que ça doit être horrible. Et ça doit raviver peut-être des souvenirs compliqués pour certains.
Oui, puis ça doit ramener au niveau de l'odeur. Il hein. N'y a pas de
là,
problème.
Parce que là, c'est
que ça klaxonne un peu. Hein.
C'est la fête du Beaujolais à Toulouse, puissance 15, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et puissance 15, c'est beaucoup.
Ça fait beaucoup, surtout pour du vin. Et je voulais juste finir par ma petite question. J'aime bien poser des questions stupides. Alors, il n'y a pas très longtemps, le Guinness Book a homologué la plus longue coupe mulet du monde, voire de l'univers, car il n'y a bien que sur Terre qu'on fait des trucs pareils. C'est une infirmière états-unienne qui a gagné avec une coupe mulet de, je vous en prie, à votre avis, combien ?
Oh, 4 mètres et demi.
Donc en centimètres.
Ah oui, c'est vrai, en centimètres...
Non, mais vous rendez compte, mais madame Henriette, c'est pas possible.
Bah, ça fait 4500 centimètres.
Oui. Mais enfin, on peut pas avoir une coupe mulet de cette taille.
Non, 450 centimètres, ouh là là. Voilà. Ouh là là.
Mais non, non, moins tout de même, enfin,
bah,
comme vous y allez.
Je sais pas, moi, que je sais pas combien poussent les cheveux, à quelle allure poussent les cheveux d'une personne qui est...
Non, mais...
a décidé de se laisser pousser la coupe mulet.
Monsieur Kogan nous parlait de la Creuse où il y a la Coupe du Monde de mulet.
Mais non, la Coupe d'Europe, monsieur
Edmond. C'est la Coupe
d'Europe.
Mais restez un peu humble.
Mais
il faut qu'ils
invitent cette dame quand même, si elle est championne recordman du monde.
C'est la Coupe d'Europe qui est quand même... Alors, ce concours est quand même régulièrement trusté par les Belges, il faut bien le dire.
En Europe, oui. Mais là, cette infirmière a une coupe mulet, ça dépend, de 172,7 cm.
Oui, alors ça dépend aussi de combien elle mesure, cette dame.
Oui, enfin quand même.
Parce qu'il y a un moment où c'est plus...
Oui, voilà, quand même.
Il y a un moment où c'est chignon
moi,
ou rien.
C'est un coup à se prendre les pieds dedans,
oui,
clairement. Mais malgré tout, enfin imaginez-vous. En plus, on ne parle pas de longueur de cheveux, on parle de coupe mulet, c'est-à-dire que c'est que la nuque, que tout le reste est court. Une vraie coupe mulet, il faut que le reste soit court, sinon ça s'appelle juste des cheveux longs.
Donc elle n'a pas de frange.
Alors ça,
non,
ça
parce
par
que
contre,
moi,
on a le droit à la frange avec la coupe mulet, c'est même
alors,
assez conseillé.
Si je puis me permettre, la coupe mulet étant à la nuque, la frange se trouve en général de l'autre côté.
De l'autre côté de quoi?
Ça dépend.
La tête. Vous
ça
avez
dépend.
Vos cheveux où
Monsieur Edmond...
Malheureusement
comment dire, ça reste une question, en effet.
Qu'avez-vous fait vos cheveux?
Bon, mais...
Il se souvient. En fait, il se souvient plus du tout.
Il a perdu.
Alors...
La frange, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un concept pour lui.
Depuis que je lis la presse féminine, je m'intéresse à plein de choses. Donc, j'ai envie de savoir, par exemple, la coupe mulet permet de cacher quelle ride?
Alors, à moins que vous soyez ridé de la nuque, pas beaucoup.
Oh bah là, vu la taille,
alors,
peut-être elle est ridée des fesses.
Voilà, 172 cm, ça cache
oui,
quand même
oui,
pas mal
oui,
de rides.
Oui, oui. En général, il y a plus simple que de se faire pousser une coupe mulet pour cacher des rides au miche. Il suffit de mettre une culotte, en fait. Hein.
Oui, c'est une option.
Après, moi,
également.
C'est mon côté pragmatique, vous me connaissez.
Ouais, c'est un peu trop simple.
C'est vrai, j'entends. Mais bon, quand même, tout de même, c'est un peu impressionnant, ne nous mentons pas.
Bon, mais elle était heureuse au moins, cette infirmière.
Ah, mais tout à fait, en 1985, elle a vu un clip d'un groupe quelconque de musique de l'époque qui avait la coupe mulet, ça l'a inspirée, ça l'a passionnée, et donc elle a arrêté de se couper les cheveux à ce moment-là.
C'était qui, A.A.
Non, le groupe, c'est Till Tuesday, je n'ai aucune idée de qui c'est, je ne connais pas du tout.
Non.
Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la coupe mulet, donc c'était très à la mode dans les années 80, particulièrement au niveau des Belges et des Allemands, et encore plus particulièrement au niveau des footballeurs. Et puis, en fait, c'est revenu à la mode en 2020, enfin, en début des années 2020. Pourquoi?
André Agassi?
2020
de... Ben non, mais après qu'il ait arrêté le tennis, quoi.
Non, alors, j'entends ce que vous dites, mais pas du tout. Non, c'est tout simplement la crise Covid et les confinements qui ont fait que les gens étaient chez eux et arrivaient à se couper un peu les cheveux, mais la nuque, c'était plus compliqué, donc ils ont laissé pousser, donc le mulet est revenu à la mode un peu comme ça.
Oui, c'est vraiment alors... une saloperie, ce virus. Rien ne nous aura été épargné. Non seulement il y en a qui se sont mis à écrire des conneries, mais en plus, voilà. Bon, mais la coupe
oui, alors, on n'a pas attendu le Covid hein, pour les conneries, hein. Sur papier ou pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Je suis pas sûre que ce soit le Covid qui ait lancé les Guillaume Musso et compagnie. Hein.
Non, non, non.
Voilà.
Ni Michel Onfray.
Non plus.
Moi, j'aimerais bien lancer un Guillaume Musso.
C'est interdit,
et
monsieur Edmond.
Et le lancer très loin.
C'est interdit.
Je suis pas sûre que ce soit légal, en fait. Faut
oui,
pas se mentir.
Monsieur Edmond, c'est la loi. Voilà.
Oh, moi, je suis d'accord. Il faudrait que Guillaume Musso ne soit pas légal. Moi, je suis d'accord. Malheureusement, pour l'instant, c'est autorisé.
Ah là là, fichu liberté d'expression.
Saleté.
Vivement que Poutine mette le haut là à tout ça.
Ouais, mais a priori ça va pas tarder. On va tarder à nous rouler dessus en train blindé avec Kim Jong-un. Oui. Donc,
comme diraient les Fatal Picard, il faut s'armer de patience.
Il faut s'armer tout court.
D'ailleurs, Kim Jong-un, c'est la coupe mulet.
Kim Jong-un, ça n'a rien à voir avec la
coupe
mulet.
C'est la coupe Kim Jong-un. Sachant qu'en Corée du Nord, j'ai plus le chiffre exact, mais il y a qu'un certain nombre de coupes de cheveux qui sont autorisées.
Ah bon ?
5. Il y a 5 coupes de cheveux pour hommes qui sont homologuées. Donc, quand vous allez chez...
Chez
oui, pour les hommes, c'est ce que je disais. Donc, c'est 5. Donc, quand vous allez chez un coiffeur et que vous êtes identifié comme étant un homme, bah, vous avez 5 photos et vous choisissez dans ces 5.
Madame Ginette, moi qui regarde énormément de séries sud-coréennes, je peux vous garantir aussi que manifestement, en Corée du Sud, il n'y a que 5 coupes pour hommes qui sont homologuées.
Qui sont choisis, c'est pas tout à fait la même.
C'est, hein, j'ai bien l'impression, et j'aurais même tendance à vous dire, 2, ça recouvre 80 à 90% de la population masculine. Mais bon.
Oui, mais ça permet de mieux comprendre quand, comme moi, on ne parle pas du tout le coréen. Le moment où il a la frange là, c'est qu'il est timide. Et quand il commence à la mettre sur le côté, c'est qu'il est amoureux. C'est tellement plus facile.
C'est ça. En effet, quand la frange tombe, c'est le moment où il va emballer l'héroïne.
Exactement.
Mais il n'y a plus de suspense du tout alors.
Eh ben, désolé, mais c'est comme ça.
Oh là là.
Tant qu'il y a la houppette, c'est mort. Tant qu'il y a la houppette, c'est la traversée du désert. Quand la frange tombe, il va emballer l'héroïne. Vous verrez, il y a des études très sérieuses là-dessus, je suis sûre. Parce que les gens s'ennuient, donc.
Ben évidemment.
Bon, ben écoutez, Madame Ginette, merci de nous avoir fait vibrer avec les rugbymen australiens à l'assaut de Fourvière. Ah non, pardon, Nouveau-Zélandais à la saute fourvière.
Vu depuis le pays de Monsieur Edmond, vous savez. Oh,
non, mais c'est une petite île à côté, on s'en fout de toute manière. Hein, ça intéresse qui hein. Ils vont pas gagner la coupe en plus. Qui c'est qui va gagner alors? Vous avez un pronostic?
Non, franchement, pas du tout. Parce que
vous en
voilà.
Foutez, vous aussi.
Moi, je sais pas qui y a. Alors...
Un peu déjà, pour commencer.
Ouais,
et
non,
puis...
on va pas se mentir.
Bon, c'est la Suède qui va l'emporter, sûrement.
Oui, en rugby, c'est souvent eux.
Attendez, parce qu'il y a, je crois que Monsieur Kogan est en train de faire
Monsieur Kogan, dont nous n'avons plus le son, mais seulement l'image, est en train de faire une crise d'apoplexie, mais en fait, on ne peut rien faire puisque c'est à distance.
C'est bien la peine que je sois secouriste.
Les premiers
je ne fais pas de secourisme en télétravail, je ne peux pas. Hein.
Et en télépathie, ça ne marche pas non plus du tout.
Non plus. En distanciel.
Ouais.
Non, je ne sais pas qui va gagner. Je pense peut-être que Monsieur Kogan a un pronostic.
Allez-y, Monsieur Kogan, on vous écoute.
Bonsoir, c'est nous, c'est la France, c'est l'Occitanie, c'est nous qui allons gagner.
Alors nous, non, hein, parce qu'il y a assez...
Moi, perso, je joue pas, c'est mieux pour tout le monde. Hein.
Ouais, franchement, il y a très peu de chances que nous, on participe. Et Madame Ginette a raison, c'est beaucoup plus sain.
Moi, j'ai l'impression que c'est Total Energy qui va gagner, hein, parce qu'ils sont sponsors,
ça,
on les voit à tous les
gagné.
Coins de rue. Hein. Ouais, ils ont déjà gagné, hein. Ils en ont... Cling, cling.
Ah oui. Oui, oui.
Oh, tout de suite, le mauvais esprit. Voilà.
Les îles Samoa, ils participent ou pas?
Absolument. Grande équipe.
Ah,
grande
voilà,
nation de rugby.
Voilà.
Oui, Samoa, oui.
Bon, bah, j'ai presque l'air bon en rugby, là. Bon, écoutez, messieurs les chroniqueurs, mesdames les chroniqueuses, on vous dit à bientôt.
À bientôt.
Et nous sommes de retour en studio pour Je m'ennuie bien, pour cette reprise. Et Madame Henriette nous fait la grâce d'une chronique.
C'est beau ce que vous dites.
Misanthropique ou non ?
Alors, pas une chronique misanthropique, encore que. Ça, c'est toujours un petit peu déprimant. Encore que, puisque donc je vous emmène donc comme souvent en Asie, et là, hop, on part de l'Asie, hop, on va en Amérique du Nord, où on va fêter.
Non, mais c'est pas si simple que ça, Madame Henriette.
Oui, ben écoutez, c'est la magie de la radio, hein, va falloir vous habituer. Donc, hop, Amérique du Nord, où l'on va bientôt fêter l'ouverture du 150e magasin de la franchise de boulangerie industrielle Paris Baguette. Alors Paris Baguette, comme son nom ne l'indique pas, c'est une entreprise florissante sud-coréenne qui s'appelle Paris Baguette. Voilà.
C'est du vol.
Alors, oui et non, parce que ça s'appelle Paris Baguette, ce qui est proposé n'est pas...
Mais pas de la baguette.
Si, il y a du pain, c'est censé effectivement être tout l'esprit de Paris, n'est-ce pas, dans des produits qui sont censés être emblématiques. Je suis allée sur le site américain donc de Paris Baguette. Alors d'abord parce que sur le site coréen, j'arrive pas à lire grand-chose. Et les produits qui sont proposés sont quand même assez adaptés au public nord-américain et assez éloignés de la boulangerie ou la viennoiserie traditionnelle française.
Vous pouvez acheter un croissant de 2,5 kg.
J'en veux pour preuve cet étonnant croissant à la knacky qui me paraît assez peu authentique, ou bien ce très haut gâteau à 10 000 épaisseurs, 10 000 couches comme savent le faire les Américains, et qui est un gâteau à base de cookies émiettés avec plein de crème dedans, c'est pas non plus typiquement la pâtisserie française.
Et ils sont pas un peu déçus les Américains quand ils viennent en France à Paris et qu'ils demandent le croissant à la knacky et le mec...
Ah oui. Alors peut-être peuvent-ils le trouver au magasin Paris Baguette de Paris, puisque
il
y a un magasin Paris Baguette à Paris.
Mais il peut pas marcher à Paris enfin quand même.
Ah bah il doit fonctionner puisque il est toujours. Alors c'est de la boulangerie industrielle, monsieur Edmond Et rappelez-vous quand même, remettons tout dans le contexte, il s'agit de nos collègues et amis parisiens, les Parisiens, qui n'ont pas forcément le même niveau d'exigence que nous sur le pain, possiblement. Hein. Donc, Paris Baguette, c'est une, je vous disais, donc une entreprise à succès. Hein. On est à presque 4000 magasins dans le monde. Et oui. Alors, la plupart sont évidemment en Corée du Sud. Il n'y en a pas en Corée du Nord, si c'était ça votre question suivante. Et il y en a quelques-uns en Chine, au Vietnam, à Singapour, et donc, comme je vous le disais, au moins un à Paris.
Pourtant, en Corée du Nord, ils sont menés à la baguette. Hein, mais
bon. Oh, c'est amusant. Et donc, voilà, Paris Baguette, c'est de la boulangerie industrielle.
Mais d'où ça vient ? Pourquoi cette idée ? Qu'est-ce qui leur a pris ?
Ben parce que tout ce qui est français, tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est pâtisserie, c'est chic.
D'accord, donc
monsieur
ils se sont dit
Alors
Paris
y a,
Baguette.
Donc Paris Baguette a été récemment... alors c'est un magasin, c'est une franchise hein, que connaissent absolument tous les Coréens, évidemment. Mais en 2022, ils ont quand même été un petit peu boycottés parce que ça faisait un moment que les syndicats disaient que les conditions de travail, et notamment les conditions de sécurité, étaient particulièrement désastreuses dans les usines, là où on fabrique donc ces
produits.
Oui,
là où on met les knackis dans le croissant.
Exactement. Et alors justement, méfiez-vous des knackis dans les croissants Paris Baguette parce que donc en 2022, un ouvrier est passé dans le mixeur. Donc voilà. et puis, outre ça, il y a eu nombre d'accidents qui était parfaitement donc évitable et en tout cas parfaitement anormaux dans une entreprise de cette taille-là. Je ne me souviens plus quelle est la famille qui possède Paris Baguette, mais c'est une des plus grandes fortunes de Corée du Sud. Et puis, il y a une autre franchise, une autre firme comme ça de boulangerie industrielle en Corée qui s'appelle Tous les jours, en français dans le texte.
Et alors, ça donne quoi en coréen? Parce qu'ils parlent mal le français, donc ils
disent... Non, ça s'appelle Tous les jours.
Oui,
alors...
mais eux, ils le disent comment entre eux?
Mais monsieur Edmond, je l'ignore parfaitement.
Mais non, mais il me semblait que vous saviez quelles sont les lettres qu'ils ont du mal à prononcer. Le J, ça passe pour un coréen?
Alors, le J comme ça, non, ça passe pas parce que c'est J. Chi.
Donc ils vont dire donc, tous les jours.
Et moi aussi je prononce mal. Le R tel que nous le prononçons en France n'existe pas non plus. A priori, le R français de toute façon n'existe dans à peu près aucune autre langue.
Et le OU, oui, le OU ça passe.
Le OU existe.
Donc ça va être tous les jours.
Le T est pas un T nous l'entendons.
Ou les Jou.
Et non, monsieur Edmond, par contre, si vous pouviez éviter de vous lancer dans des hypothèses de prononciation d'autres langues que la vôtre, ça serait vraiment bien pour le futur de cette émission, franchement.
Non, mais c'est rigolo quand même qu'ils choisissent des trucs qu'ils peuvent pas prononcer.
Parce que nous, quand on prend des noms anglophones pour faire chic, vous croyez qu'on sait le prononcer?
Ah bah bien sûr, tout le monde sait dire Starbucks Café.
Voilà, vous croyez que dans les entreprises où on brasse du vent à Paris, justement, et où on fait du wording, on prononce... D'abord, croyez-vous que ce mot existe réellement? Et ensuite, pensez-vous qu'il soit correctement prononcé? Non, monsieur Edmond, c'est partout pareil. Désolé, mais l'humanité n'est pas... meilleur ailleurs ou meilleur ici. Voilà, il faut y renoncer. Là, tout de suite. Vous allez gagner du temps. Est-ce que vous voulez savoir d'autres choses? Non, ça vous allait comme ça? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a...
Non,
y a
mais c'est votre chronique, madame Ariette, débrouillez-vous, hein, vous êtes grande maintenant.
Débrouillez-vous, vous m'amusez, moi je ne sais pas quel est le cadre, hein.
Pourquoi vous vouliez nous parler de quoi après
Je peux vous parler d'autres choses en Corée, mais moins rigolo.
Oh bah si c'est pas rigolo, non, c'est pas la peine. Hein.
Allez, donc je vous parle de Itchonsup. Itchonsup, c'est un... Je le prononce très mal, on est bien d'accord. Hein. C'est un monsieur qui a une soixantaine d'années, qui est un militaire à la retraite et qui se trouve être le ministre de la Défense en Corée du Sud. Alors, ministre de la Défense en Corée du Sud, c'est...
Il doit avoir du boulot quand même. Hein.
C'est un gros poste. Alors, en fait, qui se trouvait être le ministre de la Défense, et là, ce sur quoi je voulais attirer votre attention ce soir, c'est pour quelles raisons un ministre peut être amené à démissionner en Corée. Vous allez voir que c'est assez différent. Alors, Itchonsup...
Différent par rapport à la France, vous voulez dire? Où nous, un ministre ne démissionne jamais, ou vraiment quand c'est très grave. Oui, c'est vrai.
Tout à fait. Alors, c'est grave, effectivement, hein, là aussi. Donc là, il y a une affaire qui a poursuivi ce monsieur. Alors, il y a deux choses. Il y en a une... qui a moins joué que l'autre. La première, donc, c'est le buste de Hong Bomdo, donc, qui était un patriote qui avait lutté contre la colonisation japonaise donc, dans la première moitié du XXe siècle. Hein. Ce buste a été déplacé, ça a été mal vécu. Mais surtout, ce
qui... Et donc, quel rapport avec le ministre? Il avait donné le feu vert ou...
Ah ben oui.
Ah d'accord.
Et surtout, ce qui a coûté son poste à Itchonsup, c'est qu'il y a eu, en juillet, il y a eu des opérations de sauvetage menées par des soldats des Marines pour donc sauver des civils. Et lors de ces opérations de sauvetage, un soldat, Choi Sung-gun, hein, je fais ce que je peux pour la prononciation, une fois de plus, est mort durant ces opérations de sauvetage. Et donc, il y a eu une grosse polémique sur les mesures de sécurité qui avaient été prises pour protéger la vie de ces soldats engagés dans ces opérations de sauvetage. Notamment, il n'avait pas de gilet de sauvetage, ce monsieur.
Et donc, vous voulez dire que ces deux petits trucs-là, ça fait que le ministre...
Alors,
a petit
truc, non, il y a quelqu'un qui est mort quand même, monsieur Edmond.
Oui, mais enfin, attendez. Alors, excusez-moi, mais alors Darmanin, il doit se marrer.
Ah ben, attendez, donc...
Ah, le mec, il saute pour ça.
Alors, ce qui s'est... Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Donc, une enquête a été menée sur la mort de ce soldat. Une enquête militaire, évidemment. C'est toujours quoi, ça se passe en Corée comme ici. On commence par une enquête militaire.
Avec la grande muette, oui.
Exactement. Donc, l'enquête a été menée jusqu'au bout. Et puis, donc, la procédure exige, une fois que l'armée a terminé son enquête, elle passe la main à, aux enquêteurs civils, c'est-à-dire à la police. Et donc, au moment de passer le dossier, tout était prêt pour passer le dossier.
Le dossier a disparu.
Eh bien, ce ministre de la Défense aurait finalement changé d'avis et aurait dit « Ben non, vous ne passez pas le dossier », en arguant qu'il y avait des investigations complémentaires à mener. Et...
Il n'a pas dit du secret défense, parce que nous, en France, c'est plus sympa.
Et là,
oh là, il y a du secret défense, ouh là là.
Le chef de l'investigation militaire a fait preuve d'insubordination et a quand même passé le dossier aux enquêteurs civils. Il a donc été sanctionné pour insubordination. Et manifestement, il semble quand même que l'intervention du ministre de la Défense n'ait pas plu. Donc là-dessus, le parti d'opposition qui est à l'équivalent de l'Assemblée nationale a dit que donc il allait entamer une procédure de destitution. Et le problème, c'est que si une procédure de destitution aboutit dans leur constitution, ça paralyse complètement la position du ministre. C'est-à-dire qu'il est coincé en fait jusqu'à la fin de la procédure de destitution. Pour éviter ça, dans le contexte un petit peu tendu actuellement qui existe entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, eh bien, le ministre a préféré démissionner avant d'être mis en cause au Parlement.
Donc voilà. Il va y avoir un nouveau ministre de la Défense.
Alors, va y avoir un nouveau ministre
de la
Défense.
Peut-être un espion nord-coréen qui s'est fait...
Non, mais prenez-les pour des amateurs et des débutants. Non, mais cette blague. C'était juste pour vous donner un petit éclairage sur les différences qu'il peut y avoir entre un pays et un autre. Voilà pourquoi un ministre peut... Voilà.
Non, mais en France, je suis sûr que le mec, alors là, c'est... Ça passe dans les journaux et puis deux jours après, c'est oublié. Hein. Non, nous, il faut quand même des trucs plus lourds. Ou manger des homards au moment où il ne faut pas. Quoi. Mais
autre gens, autre mœurs, monsieur Edmond.
Bon, mais ce n'est pas tout ça parce que c'est bien beau, mais avec tout ça, on ne sait pas si on peut congeler ou pas les courgettes.
C'est vrai. Alors, que c'était votre accroche tout à l'heure et j'ai presque failli oublier tellement ce n'est pas intéressant.
Ah ben, non mais attendez, c'est la saison là, je suis sûr que les gens ils ont encore plein de courgettes au jardin.
Et vous pensez qu'on
mais on en a marre de bouffer des courgettes.
Vous pensez qu'on a tenu nos auditeurs jusque là avec ah oui d'accord,
c'est une évidence qu'il y a des gens qui ont attendu, qui ont supporté toutes vos chroniques pour savoir si on peut oui ou non congeler les courgettes.
Alors la réponse tout de suite, sachant que votre source est un magazine féminin.
Oui, permettez-moi de vous dire que la réponse est oui.
Et alors, pouvez-vous citer votre source ?
Mais qu'il y a deux écoles.
Ah, évidemment.
Alors d'abord, il y a ceux qui congèlent les courgettes crues. Alors là, j'adore la phrase. Veillez à opter pour des légumes frais, fermes et qui ne sont pas abîmés. Parce qu'il faut le savoir, si vous congelez des courgettes complètement pourries, vous allez les décongeler complètement pourries.
Et oui, c'est pas parce qu'elles sont congelées qu'elles seront fraîches.
Et non.
C'est la différence. Monsieur Edmond.
Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre congélateur.
Cette émission devrait être déclarée d'utilité publique. Oh là là, on en dit des choses intéressantes.
Une fois sorties du congélateur, il vous suffira de les laisser décongeler et de les cuisiner. C'est beau quand même, la presse féminine,
oui,
ça vous donne des conseils.
C'est peut-être beau, mais à mon avis, c'est parfaitement... Pas intéressant sur le plan gustatif, mais c'est mon avis.
Pour la courgette cuite...
Attention, la courgette cuite, c'est différent.
Il vous suffit de faire cuire les courgettes
oui,
avant
alors,
de les congeler.
Pour cuire une courgette, effectivement, il suffit de la faire cuire. On le dit trop peu, on nous cache tout.
Ensuite, vous la laissez refroidir et vous la congelez.
C'est fou.
C'est quand même fort.
Ah, c'est...
Vous avez quand même un article qui doit bien faire 20 lignes, 30 lignes pour vous dire ça.
Ah ben c'est le monde
d'après. Moi je dis respect.
Monsieur Edmond, c'est le monde d'après, plus rien ne sera jamais comme avant.
Eh bien quelque chose qui ne change pas, Madame Ariette, c'est qu'il faut maintenant se quitter.
Oui, d'ailleurs après ce grand moment de radio, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ?
Eh ben rien.
Donc on va vous souhaiter une très bonne semaine et on va se retrouver la semaine prochaine, si tout va bien.
Au revoir.